Ce shiur est dédié pour la Tshuva Shlema de Guillaume Ben Hana. La question de Yoni.
Alors, je voulais savoir dans quel cas, en fait, il était préférable de se donner la mort que plutôt transgresser un interdit de la Torah ou des Rabbanan.
On ne se donne pas la mort. C'est-à-dire que si vient une personne et nous menace de mort, à moins qu'on transgresse un certain péché, il y a des cas où on doit pécher et des fois on doit préférer la mort. Quels sont ces cas ? En situation normale, il y a trois sortes de situations. Normale, moitié-moitié, on va dire, et anormal. D'accord ? Première situation, c'est normal. Situation normale, maintenant, je ne sais pas moi, il y a un non-juif qui vient qui me dit cuis-moi un beefsteak pendant Shabbat. Ok ? Sans problème, je cuis le beefsteak. Il n'y a aucun problème à cela. Comme il dit, elle a mitzvot chassé Adam, voici les mitzvot que l'homme fera, et vivra dans ces mitzvot, qui vivent et pas qui meurent. Pour toutes les mitzvot, il faut préférer transgresser l'interdit plutôt que perdre la vie. À part trois cas. S'il nous dit de faire de l'idolâtrie, s'il nous dit d'assassiner quelqu'un, ou s'il nous dit d'avoir une... Allez, dites-moi. Alors en France, ils disent adultère, c'est des bêtises, comme quoi il n'y a que l'adultère. Il y en a 27 interdictions de relations sexuelles. D'accord ? Et non seulement la relation elle-même, mais tout contact physique provoquant un certain plaisir. D'accord ? Donc même à la rigueur, un petit caresse langoureux sur la main, dans ces cas-là aussi. Avec une femme qui nous a interdite. Donc avec toutes les femmes du monde, sauf ma femme, juive, quand elle est pure. Dans tous les autres cas, il faut préférer la mort.
S'il y a une femme qui vient à moi et le jour qui me dit « viens, je vais toucher un petit peu la main comme ça »,
Pourquoi comme ça? Pour voir si tu as des verrues ou bien pour...
Pour le plaisir.
Voilà. Alors, quelqu'un vient, Staline vient te dire « c'est où ça, où je te tue ?» Tu ouvres la poitrine, tu dis « vas-y, tire ». D'accord? Oui. C'est dur, mais c'est notre Torah. Oui.
Et même sa femme, c'est Linda.
Oui. Même sa fiancée, 5 minutes avant la choupa, le photographe dit « prenez-la dans votre... mettez votre main autour d'elle comme ça ». Non. D'accord ? Plus forte raison, les 3 ans de fiançailles qu'il y a jusqu'au mariage. La mode française attend 3 ans de se marier. Shem Hachemor, que Dieu nous en préserve. Ça, c'est en situation normale. C'est quoi situation normale ? Le goy, maintenant, quand il me demande de faire un beefsteak, lui, il ne veut pas maintenant que je fasse un chayoul Shabbat. Lui veut un beefsteak. Ah, c'est tombé un samedi. Ok. Alors, mieux vaut ça que la mort. Je fais le beefsteak pendant Shabbat, il n'y a aucun problème. Deuxième cas, le goy, il veut que je fasse une chose contre la Torah. Il me dit, allume la lumière. Éteins, allume, éteins, allume, éteins. Pourquoi ? J'aime bien te voir faire Hilul Shabbat. D'accord ? C'est pas qu'il a besoin maintenant de danser en psychédélique, d'accord ? Lui, il veut maintenant m'embêter. C'est son seul but. Là, c'est différent. Alors, ça dépend. S'il y a 10 personnes juives pratiquantes ici qui voient cela, alors mieux vaut préférer la mort que transgresser le Shabbat. S'il n'y a pas 10 personnes pratiquantes présentes ici, alors faut préférer, faut vite compter, ou Arménian, Kim Staref, les gens pratiquants ou pas, Oshé Atamecha, etc. Et si tu vois qu'il n'y a pas 10, alors tu lui fais, tu allumes la lumière comme ça, tu danses avec lui sur le rythme. Oui.
Aujourd'hui, il y a Enafemina, si par exemple c'est filmé. Alors là, on pourrait dire...
Oui, quand je dis que voix, c'est peu importe voix, c'est-à-dire qu'ils seront au courant de cela. C'est pas que ce soit une présence physique, si c'est connu, si 10 personnes pratiquantes sauront cela. Oui.
C'est pas obligatoire aux femmes, ça le.
Je n'ai pas compris.
C'est pas obligatoire aux femmes le fait de dire bah, qu'il bouche un jugement, qu'il bouche un chien.
Ah, tu parles dans le premier cas?
Non, le cas, oui, qu'il faut se faire tuer à la place de
toutes ces... Relation sexuelle, tu veux dire?
Ouais, ou même l'autre, je crois.
Pourquoi pas? Personne n'applique à vos femmes.
Non,
tout applique à vos femmes. Dans le cas où, de relation sexuelle, si une femme elle reste complètement passive, alors vu qu'elle ne fait rien, alors elle peut vivre, se faire violer quelque part, et ne pas se faire tuer.
Un homme aussi, il peut se faire violent.
Impossible. Alors, Chazal dit, il est impossible que tu te mettes en état d'érection sans que tu le veuilles. En kishou et la ledat. Si quelqu'un se concentre beaucoup et il pense à la Shoah, il pense des trucs, on lui fait voir tous les films, ça ne fera rien. S'il regarde PA, tac. Voilà. Pour rentrer dans le détail. Troisième cas de figure, ça s'appelle ça Xerachmad. C'est quoi Xerachmad ? Une puissance vient pour nous faire avec des décrets qui sont là pour qu'on quitte la Torah d'Israël. Comme les Grecs à l'époque, comme l'Inquisition, comme les Croisés, comme Staline, comme les nazis très souvent. D'accord ? À peu près toute notre histoire, on a eu droit à ces cas-là. Et dans ce cas-là, même pour une coutume non obligatoire, la Gemara dit ainsi que tranche de Shulchan Aruch aussi, même Arakla de Messana, même pour un lacet de chaussures qu'on portait, nous, les Juifs, différemment que les Goïms. Là, vous préférez se faire tuer. Parce que ça, c'est une action déjà d'une puissance pour que le peuple d'Israël quitte la Torah. Et la Torah qui est met tellement d'accent sur la conservation de la vie, pour le Chilul Hashem, pour la profanation du nom de Dieu, là, il n'y a plus de vie, rien du tout, ça passe avant tout. Si maintenant quelqu'un a transgressé, je lui dis ou je te tue, ou tu te prosternes devant la croix, d'accord ? Il s'est prosterné. Alors, il n'a pas transgressé l'interdiction de Avodah Zara. En tout cas, il n'est pas causé comme coupable parce qu'il était contraint à cela. Quelqu'un qui est contraint, anus, armana patre. Dieu le dispense de toute sanction. C'est pas ça, on l'a forcé. Ou ça, ou la mort. Il s'est prosterné. Il a fait un autre péché bien plus grave. Chilul Hashem. Il a profané le nom de Dieu. Et si au contraire, il s'est laissé tuer, alors il a fait la plus grande mission possible qui est inimaginable, qui est celle de mourir avec le Hashem, mourir en sanctification du nom de Dieu.
Si c'est en privé.
Alors, ça dépend pourquoi. Alors, faisons de l'ordre, d'accord ? Si c'est en privé, idolâtrie, oui, j'ai dit, dans le premier cas, c'est même en privé, pour ces trois péchés graves, nous, on s'est retués. Tout le reste, on transgresse.
Oui, d'accord, mais Chilul Hashem.
Il y a Chilul Hashem en privé et Chilul Hashem en public. C'est deux choses différentes, d'accord ? Mais c'est Chilul Hashem quand même.
En public, c'est deux personnes.
Alors, Chazal dit 10. Oui.
Donc, en privé, il n'est pas obligé de mourir avec le Hashem. Est-ce qu'il a le droit ?
De quoi tu parles ? Ah, dans un cas, il n'est pas obligé. Le biftek, par exemple, d'accord ? C'est une marloquette. Le Rambam, il n'a pas le droit. D'après d'autres poskim, il a le droit. Et personne ne peut trancher. À ce moment-là, il faut rappeler le Rambam, lui demander quoi de rage, une question, et il va vérifier quelle est la... Néanmoins, c'est écrit que si il pense que maintenant, ça peut aider la communauté, donner l'exemple, décourager les goyim de continuer comme ça, il peut.
Il peut se tuer. Il peut se faire tuer.
Il peut se faire tuer, bien que ce n'est pas un cas qui est légitime d'après la halakha. Pour le Rambam, non, mais il me semblerait, d'après les poskim, le char là-bas, il dit que s'il y a une utilité, il peut.
S'il se trompe ?
Quoi, il se trompe ?
Il n'est pas mort en Kiddush Hashem, par exemple. Ça n'a pas servi.
Ça veut dire quoi, il s'est trompé ? De quelle erreur tu parles ?
Ça n'a pas servi.
Ça a l'air, il a cru que c'est bon. Il lui a fait dans un but utile.
Oui.
Bon, ok, ça va.
Vu la récompense après.
Non, c'est bon. Il lui l'a fait dans l'option maintenant d'aider. Est-ce que ça va aider ? Normalement, s'il pense que ça va aider de toute façon. C'est pas une petite chose de mourir en Kiddush Hashem. Il y avait un monsieur, il s'appelait monsieur Serbernik, qui était dans la Shoah. Et son petit-fils, il habite Israël. Je le connais d'ailleurs bien. Il s'appelle, son prénom, Shalom, exactement. Il était candidat au prix Nobel de chimie en Israël. C'est une grosse tête. Comment il gagnait sa vie ? Il était étudiant en chimie, mais il gagnait sa vie. Il faisait des tournois d'échecs, mais plusieurs à la fois. Parce que les gens, tac, il partait chez l'autre, tac, il gagnait toujours. Donc il faisait comme ça qu'il gagnait sa vie. Puis un jour, il faisait la queue à Haïfa, au Ternion, donc, il faisait la queue. Il y avait la seule boucherie qui vendait du porc en Israël. Aujourd'hui, là, si on a des centaines, c'est la seule. Et, vu qu'il y avait une seule, les gens faisaient la queue. Du coup, il a pensé à son grand-père. Il dit, c'est quand même pas possible. Moi, je fais la queue maintenant. J'attends des heures pour manger une côtelette de porc. Alors que mon grand-père, dans quelles conditions il est mort ? Son grand-père était dans un des camps, je ne sais plus si c'était Auschwitz ou un autre camp. Il était religieux. Il y avait la barbe était haute. Et les nazis, vous voyez, on entendait déjà les canons russes. Ils n'étaient qu'à 10 km. Les Russes étaient très proches. Alors les nazis disent, on ne va pas laisser maintenant les Juifs comme ça, on ne va pas les humilier. Ils prennent le grand-père Savernik, lui dit, rase ta barbe. Rase ta barbe. Lui, il se dit, maintenant, pourquoi ils me demandent ça ? Quoi, ils ont besoin que j'ai la barbe rasée ? C'est pas comme le cas du beefsteak. Alors il dit, tac, maintenant c'est Xerachmad, c'est une puissance qui va maintenant se battre contre un détail de la Torah. Avoir une barbe, ce n'est pas obligatoire. C'est juste bien, une coutume juive. Et elle a dit non. Et ils l'ont tué en arrachant sa barbe avec leurs bottes. Shalom Savarin s'est dit, c'est pas possible. Il a quitté la queue. Il commence à penser au pourquoi et comment de la vie. Il a fait tchouva, il est devenu l'instigateur du plus grand mouvement de tchouva. Le plus grand organisme s'appelle Arachim. Et c'est le premier qu'il a fait. Et il a enseigné beaucoup de gens. Moi-même, j'ai pris des cours chez lui, d'accord. C'est l'instigateur, tout le monde de tchouva qui est en Israël. Un des grands instigateurs, lui et un autre, c'était le Tzvi-Inbal. C'est eux qui ont tout mis sur pied, tout le système, la méthode, le truc. Et ça fait des centaines de milliers, des millions de baïs de tchouva. Le mérite du grand-père qui est mort dans la Shoah. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.